Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Sud. Hein. Rien n'arrête la culture Gomez, ni la pluie, ni le vent, ni les excès de soleil. Donc nous voilà repartis avec le petit train de la culture. Je vous présente le premier wagon, à savoir Lou.
Mais merci, je suis effectivement montée dans le premier wagon. Bonjour à tout le monde.
Voilà, voilà. Le deuxième wagon qui est là-bas, Isabelle.
Je suis là-bas, tout là-bas. Et bonjour à tous et à toutes.
Et enfin, Coralie.
Moi, je suis dans le wagon de queue. Bonjour tout le monde.
Voilà. Et alors, la locomotive qui tire tout ça, c'est notre technicien Nathan qui vient vite se rasseoir à sa place. Il a eu la présence d'esprit d'aller fermer cette fenêtre. Vous avez peut-être entendu passer un véhicule ou l'autre. Et voilà. Eh bien, écoutez, tout a l'air d'être en place. Donc, démarrons immédiatement avec le wagon qui devient tout à coup le locomotive de l'émission, à savoir Coralie qui va nous parler...
De livres, hein, comme d'habitude.
Oui.
Alors, dans les livres jeunesse que j'ai envie de vous présenter, je vous ai ramené Le Petit Gland, une belle histoire pour découvrir le cycle de vie du chêne. Alors, c'est un petit album qui fait une trentaine de pages, avec des illustrations absolument magnifiques dans les tons pastels, qui racontent en fait comment pousse un gland, ce qui se passe pendant les saisons qui passent, comment s'enterre un gland et comment un gland grandit pour devenir un chêne. Voilà, donc c'est très, très pratico-pratique. Mais sur base d'une petite histoire quand même, pour que ce soit un petit peu plus accessible. Alors moi, je le conseille pour les enfants déjà à partir de la maternelle, parce qu'il y a assez peu de textes et beaucoup d'images, donc les enfants peuvent facilement se figurer ce qui se passe dans l'histoire. Et puis, voilà, ça permet de voir un petit peu le principe de comment pousse une plante. Alors ici, évidemment, on a pris le chêne comme exemple, mais... ça s'applique un petit peu à tout, puisque le gland n'est jamais qu'une graine.
Et c'est vrai que dans nos villages, il y a beaucoup d'écoles avec des potagers ou même des potagers partagés dans les villages. Et dans nos bibliothèques, il y a des grainothèques. Donc ça peut aussi être un complément pour une visite dans un jardin potager ou à la bibliothèque et venir partager et échanger des graines, me semble-t-il.
Moi, je pense que c'est une bonne idée.
Merci,
c'est une
Coralie.
Très bonne idée.
Merci.
J'aime beaucoup. C'est important d'apprendre aux enfants ce qu'est la vie végétale. Il y a beaucoup de gens pour qui les arbres sont à peine vivants, en fait. Hein. Mm-hmm. Ils font partie du paysage comme une statue, presque. Alors
oui.
Qu'en réalité, les arbres sont extrêmement intelligents, ils font
ça.
Des choix.
Il a été prouvé scientifiquement qu'ils ont d'ailleurs un réseau de communication qui leur est propre.
Tout à fait.
Oui.
Avec des champignons.
Effectivement. Donc voilà, donc faut pas hésiter à venir emprunter ce petit bouquin qui est vraiment sympa ou à passer à la grainothèque pour mettre l'histoire en pratique. Hein, parce qu'après tout, on peut très bien être acteur après avoir lu une histoire.
Et puis on n'a même pas besoin d'un jardin. Hein. Un pot de fleurs suffit déjà pour montrer le principe en tous les cas.
Oui, c'est sûr.
Cultiver quelques aromates sur le balcon.
Ça fait toujours plaisir.
Et une fois que les enfants ont été sensibilisés à ça, je pense qu'ils le gardent... pour plus tard, même si à l'adolescence, ça ne les intéresse plus trop, ou à l'occasion ou l'autre, mais ultérieurement, ça...
On serait assez étonnés, Moi, je connais pas mal d'ados qui sont, eux, demandeurs de passer du temps dans le jardin, en fait.
Ah ouais, c'est chouette, ça.
Bah, en même temps, avec le confinement, on a tous été enfermés entre quatre murs, alors du coup, maintenant, le jardin, c'est un peu le Saint Graal.
Ouais, tout ce qui est occasion de sortir.
Donc voilà, le Petit Gland, c'est vraiment un petit album qui est quand même relativement grand en taille, hein, mais bon, qui est très court et très sympathique pour une première entrée en matière de comment poussent les choses avec les tout-petits. Et alors, j'ai décidé de changer un petit peu la donne, hein, cette fois-ci, et de vous ramener une bande dessinée jeunesse. Alors, c'est une série, puisque le deuxième tome est paru il n'y a pas très longtemps. Ici, je vous ai ramené le premier. Ça s'appelle Mayana, et le premier tome s'appelle Le Calendrier de l'Avent. Donc, c'est l'histoire de cette petite fille, Mayana, du coup. On ne s'en serait pas douté, n'est-ce pas? Qui, un jour, en rentrant chez elle, un 1er décembre, découvre un drôle de paquet qui porte son nom, et qui est en fait un petit calendrier de l'Avent, où chaque petite papillote contient une truffe au chocolat, et un petit mot particulier sur l'emballage. Donc elle ouvre sa première papillote du 1er décembre. On est le 1er décembre, elle a tout à fait le droit. Et le message, c'est « L'amour, c'est comme une truffe au chocolat ». Et en fait, à travers ces petits messages et à travers ces chocolats qu'elle va ouvrir jour après jour, Mayana va en apprendre un petit peu plus sur ce que c'est que l'amour, sur ce que c'est que la famille. Et elle va quand même déguster des sacrés bons chocolats, hein, ce qui est vachement pratique aussi. Et on voit un petit peu que cette petite fille vit avec sa maman, mais que sa maman est avec un homme qui n'est pas son papa, avec qui elle a eu un deuxième enfant. Donc Mayana a un beau-père, un demi-frère, c'est une famille recomposée. Le papa a un peu disparu du tableau, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui se passe. Et surtout, on ne sait pas qui offre ce calendrier de l'Avent à Mayana.
Mmh.
Ce qui est quand même très intéressant, parce que du coup, la pauvre petite Mayana, elle dit merci à tout le monde, et tout le monde lui dit, mais ce n'est pas moi qui t'offre ce calendrier, ça n'a rien à voir là-dedans.
Et est-ce qu'on trouve pourquoi à la fin
Ah oui. Mais je ne raconterai
pas. Il ne faut pas le dire.
Non, je ne raconterai pas la fin. Par contre, ce que je peux vous dire de la fin, qui est super intéressant, c'est que sur la couverture, à la toute dernière page, on a la recette des super truffes au chocolat.
Mmh.
Cette affaire. Je les ai goûtées une fois, c'est très 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 bon. Mmh.
Décidément, ce sont des albums que tu nous présentes à mettre en pratique après lecture.
Oui.
C'est intéressant.
Pourquoi s'arrêter à la lecture quand en plus on peut avoir un petit apprentissage derrière Donc voilà, moi je trouvais qu'il était particulièrement beau et je trouve notamment que la relation entre Mayana et sa belle famille, hein, son beau-père et son demi-frère, est particulièrement touchante. Du coup, je me suis dit qu'on allait écouter un titre tout aussi touchant qui s'appelle « Beau papa » et c'est de Vianney.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau. Je t'attendais pas, je te laisserai pas, même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas. Sans le même sang, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter. En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis prends-la.
And now, ladies and gentlemen, something completely different.
Oui, oui, ça va. Ah oui, c'est une référence au Monty Python.
Plus grand. Enfin, oui. Bon, passons. C'est un gros bouquin, très lourd, que j'ai trouvé à la bibliothèque de Floraville. Il s'appelle Drawdown, ce qui veut plus ou moins dire tirer vers le bas, ralentir,
ralentir, freiner, oui.
Avec comme sous-titre beaucoup plus clair, comment inverser le cours du réchauffement planétaire. Bon, déjà, c'est un objectif ambitieux. La plupart des gens vous parlent de transition écologique, c'est-à-dire continuer à faire la même chose, vendre beaucoup, beaucoup de voitures, mais électriques. Donc, ce qui, évidemment, ne va absolument rien arranger. Il faut des transports en commun, évidemment, et pas des gens dans des voitures qui pèsent plus d'une tonne pour déplacer 70 kilos. Ce qui est complètement stupide. Passons. Et donc ici, non, il y a vraiment l'objectif d'inverser le changement climatique. Alors, quand on ouvre ce livre, il a un peu... L'organisation est assez spéciale. Ça ressemble un peu à un syllabus, comme on les avait à l'école dans le temps. Et c'est un peu déroutant. Donc, il faut aller consulter le sommaire et puis la préface. Alors, ça vous parle de tout un tas de choses qu'il y a moyen de faire pour inverser donc, ce fameux réchauffement climatique dont on a pu voir beaucoup d'exemples. Alors, je vais vous prendre l'élément numéro 1 qui permettrait de supprimer à peu près 90 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, des gigatonnes, c'est des milliards de tonnes. Hein. Eh bien, ce sont les fluides frigorigènes. Souvenez qu'à cause du trou dans la couche d'ozone, on a supprimé le freon.
Oui.
Qui était un CFC, je pense. Et donc, on a inventé des nouveaux gaz réfrigérants. Alors, gaz réfrigérants qu'on trouve dans les frigos, les airs conditionnés, des voitures et des maisons. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a de grosses, grosses quantités. Alors, ces CFC, on les a remplacés par des HFC. Alors, tenez-vous bien, les HFC sont, je suis tellement consterné par le chiffre, entre 1000 et 9000 fois supérieurs à celles du CO2. Donc, on vous parle du méthane qui vient des pets des vaches, qui lui est 21 fois plus. Allez, qui réchauffe 21 fois plus vite l'atmosphère que le CO2. Ici, on est entre 1000 et 9000 fois. Donc, si on trouvait des solutions pour transformer ces HFC en un autre produit qui ne provoque pas le réchauffement de la planète, eh bien, ce serait le numéro 1 pour lutter contre le changement climatique et pour l'inverser.
Donc, si je comprends bien, Jean-Marie, ça veut dire arrêter la climatisation, arrêter tout ce qui est frigo, ou je n'ai pas bien compris?
Non, non, on peut remplacer ça par d'autres types de produits, mais qui demandent évidemment des machines qui vont coûter plus cher,
ah,
etc.
Oui.
Des choses comme ça.
D'accord.
Et avec les différents chiffres qui sont donnés chaque fois en tête d'article. Donc, il y a le nombre de tonnes, de gigatonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère et alors le coût que ça représente. Et alors, dans cet exemple-ci, les données mondiales sont trop variées que pour estimer un coût. Hein. En fonction des pays et des systèmes de production, c'est un peu difficile à estimer. Alors, je vais vous parler du numéro 6. Hein, c'est pas loin du premier quand même. Hein. Eh bien, figurez-vous que c'est l'éducation des jeunes filles. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des jeunes filles éduquées faisaient généralement moins d'enfants. Alors évidemment, plus il y a d'enfants, plus il y a de consommation de CO2, etc., etc. Et donc, l'éducation des jeunes filles permettrait de supprimer 60 gigatonnes de l'atmosphère. Alors, vous demandez, je vois Isabelle qui fronce les sourcils.
Oui, eh bien, parce que les jeunes filles ne sont pas les seules à faire des enfants. Et en tout cas, elles ont du mal à en faire seules.
Oui, certes, j'aurais plutôt parlé d'éducation tout court, parce que ou d'aide à la contraception, alors, dans ce cas-là.
J'essaie de trouver rapidement.
Du coup.
Effectivement.
Parce qu'effectivement, voilà, on n'est pas toutes des Vierges Marie, hein, on n'est pas toutes capables de faire des enfants toutes seules.
Non.
En fait, oui, il y a tout... Bon, c'est parce que c'est pas tellement pour nos pays, hein, c'est des pays plus en voie de développement où les filles n'ont généralement aucune éducation.
Oui, mais où les hommes usent et abusent des jeunes filles.
Oui, enfin, du point de vue du nombre d'enfants qui sont faits, une jeune fille éduquée peut prendre des moyens de contraception, par exemple.
Non, ça me semble pas si simple, Jean-Marie.
Oh, ce n'est pas moi qui le dis, hein, donc il faudrait lire l'article en détail. Mais
parce que souvent, ce sont les hommes qui empêchent les femmes de prendre des moyens de contraception, éventuellement aussi, dans ces pays-là.
En tout cas, je pense que le choix du titre de l'article a été peut-être un petit peu...
rapide.
Voilà, un peu sauté à la conclusion trop rapidement, quoi.
Je ne pense pas. Il faut aller voir la liste des contributeurs. Donc, moi, je ne vais pas me positionner comme ça, je dis simplement. Donc, quand les gens qui ont travaillé là-dedans, c'est des études scientifiques avec des gens de valeur. Donc, je suppose qu'ils n'ont pas, dit ça.
Ah, il n'a
probablement pas. Ce que je suggérerais, c'est que tu donnes pour la prochaine mission la réponse à cette question.
Oui,
en
voilà.
Voyant lu on va faire l'article ça. Tout
exactement.
À fait.
Chers auditeurs, chers auditeurs.
Avec un œil critique, voilà. Comme nous venons d'en poser. Six yeux furibonds qui se sont posés sur Jean-Marie en disant « mais qu'est-ce
vous
qu'il
vous en serez peut-être surpris de point, l'éducation des filles a une incidence majeure sur le réchauffement climatique.
Sans doute, donc mais pas uniquement.
Des femmes qui ont fait de longues études gèrent activement leur contraception. Hein. Donc voilà, le fait d'avoir fait des études, le mari peut toujours essayer. Mais bon, elles ont quand même quelque chose derrière elles pour leur répondre probablement. Elles font des enfants moins nombreux, sont en meilleure santé. En 2011, la revue Science a publié une analyse démographique des répercussions de l'éducation des filles sur la croissance de la population. Donc Science, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Mais bon, voilà, je lirai ça plus en détail et vous ferez
un
résumé.
C'est pas n'importe qui, mais...
Et alors, le livre se termine par un tableau récapitulatif des solutions selon leur rang. Alors, il y a les fluides, on a vu, réduction du gaspillage alimentaire. C'est le troisième point. Alors ça, c'est hallucinant.
Ça
ne
m'étonne
hein.
pas du tout.
Et donc les fluides frigorigènes, c'est 90 milliards de tonnes en moins dans l'atmosphère. Et réduction du gaspillage alimentaire, c'est 70 milliards de tonnes en moins. Donc vous voyez que ce n'est pas tellement loin derrière. Et oui, ça c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs solutions de ce genre-là qui sont des solutions individuelles. Bon, il y a les grandes surfaces qui gaspillent, mais je pense que 25% du gaspillage vient des foyers, en tout cas une part non négligeable. Mm-hmm. Et donc là, on a tous et toutes un rôle à jouer dans ce genre de choses. Alors, il y a des solutions, par exemple, faire des infrastructures cyclistes, c'est 2 milliards de tonnes de CO2 en moins. Donc c'est recyclage des déchets industriels, ce n'est pas très, très important non plus par rapport aux 5-6 premiers points. Donc voilà, Drawdown, un livre que je vous conseille vraiment chaleureusement. Je vais le rapporter à la bibliothèque, mais je pense que pour le moment, elle est fermée, hein, à Florence.
Elle est fermée pendant ces deux semaines pour cause d'inventaire. Et,
voilà. La bibliothèque de Florentville invente des choses. Donc on va les laisser faire.
Et de toute façon, tu ne peux pas rendre le bouquin tant que tu n'as pas lu très précisément l'article.
Oui. Et qu'on n'a pas débattu.
Voilà, je vais faire ça. Et en attendant, je vous propose une petite illustration musicale d'un morceau qui s'appelle Feeling Groovy et qui commence Slow down, you go too fast. Donc effectivement, nous allons trop vite à produire du CO2. Il est absolument nécessaire non seulement de ralentir, mais de diminuer. Donc on va atteindre déjà les 1,5 degrés 10 ans plus tôt que prévu. On voit bien les inondations, les feux de forêt, ça commence à partir en...
Cacahuète.
Oui, pour rester poli, cacahuète.
J'avais choisi un autre mot qui commence aussi par C et vous avez bien fait de m'arrêter. Je t'ai coupé tout à l'heure, Isabelle, jusqu'à ce que la bibliothèque est fermée.
C'est deux semaines-ci, donc jusque fin août.
Voilà, donc début septembre, vous pouvez aller emprunter ce Drawdown, parce que là, j'aurai eu le temps d'étudier l'article en question. Mm-hmm. Voilà, Nathan, on est prêt.
Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. La-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
Et Bien voilà, c'est Lou qui arrive. Alors, bon, au niveau de l'éducation des jeunes filles, je pense qu'avec ce dont tu vas nous parler, il y aurait sûrement des choses à dire.
Ah oui, absolument. J'ai choisi aujourd'hui un bouquin qui s'appelle Vox. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, non, Coralie?
Comme
Isabelle,
ça, non.
Comme ça, non.
Le titre ne me dit rien.
En fait, c'est un bouquin, vous avez peut-être vu passer à la bibliothèque, c'est un bouquin très... la couverture a un graphisme très particulier. On voit un visage blanc, un visage de femme blanc. La chevelure est bleue et ça se détache contre un fond noir. Et puis, il y a en grosses lettres rouges, Vox, hein, qui veut dire la voix, évidemment. Et le X sert à barrer la bouche de la femme qui est en couverture. Parce que le bouquin est un... c'est un bouquin assez effrayant. Et c'est en tout cas un cauchemar pour les femmes. Et c'est une dystopie, évidemment, qui se passe aux États-Unis. C'est là que Christina Dalcher, qui est l'auteur de ce roman, a posé son intrigue. Et on est dans une société où le président, qui ressemble d'ailleurs étrangement... à l'avant-dernier président, c'est-à-dire Donald Trump, et c'est là que ce président mégalo est sous la coupe d'une église fondamentaliste. Et donc, au pouvoir se trouvent des fondamentalistes chrétiens, dans ce cas-là. Et j'ai choisi ce bouquin parce que, ça fait quelque temps que je l'ai lu, mais vous avez sans doute en mémoire la chute très récente de Kaboul aux mains des talibans. Et vous avez peut-être lu, lors de sa sortie, le magnifique roman de Hosseini, je crois, « Les cerfs-volants de Kaboul ».
Oui,
et c'était vraiment un bouquin qui, moi, m'a beaucoup marqué, où on découvre le sort de ces femmes. Et en fait, il y a un parallèle tout à fait évident entre ce bouquin de Hosseini et celui de Dashler, parce que là aussi, dans le bouquin, suite à la prise de pouvoir par les fondamentalistes religieux, les femmes n'ont plus le droit non seulement de travailler, mais aussi elles n'ont plus le droit de parler. Alors elles portent un bracelet électronique qui leur donne droit à 100 mots par jour. Et dès qu'elles dépassent les 100 mots, elles reçoivent une décharge électrique. Et cette décharge électrique est, disons, en fonction du nombre de mots dépassés, devient de plus en plus forte. Donc c'est vraiment une forme de torture. Et le bouquin raconte l'histoire de Jean McClelland, qui est en fait docteur en neurosciences. Et comme toutes les autres femmes dans cette société, elle n'a plus droit à travailler. Sauf que le frère du président est victime d'un accident et elle est la seule à pouvoir le sauver. Alors, je ne vous raconte pas l'intrigue, qui pour moi, dans ce bouquin, a peu d'importance. Ce qui m'a attirée dans le bouquin, c'est l'originalité du propos. C'est intéressant parce que franchement, on est quand même assez étroitement tout près, tout proche de la réalité. Et quand je vois ce que les femmes... Enfin, je lisais hier un article sur les femmes en Afghanistan qui sont en train de s'effacer. Elles cachent leur diplôme, elles cachent leur identité et elles remettent cette burqa intégrale parce que elles sont devant un pouvoir tout à fait patriarcal et très, enfin, plus qu'asphyxiant pour certaines d'entre elles. Et donc voilà, ce n'est pas un bouquin. L'écrivaine, donc Christina Dalcher, est, je pense, docteur en linguistique. Mais elle n'est pas écrivaine. Alors c'est vrai que ça se sent un peu. L'écriture est parfois un peu maladroite et la fin de l'histoire, franchement, on aurait peut-être pu faire une fin un petit peu plus originale. Mais franchement, c'est quand même un bouquin que je vous conseille parce que il est franchement d'actualité. Voilà.
C'est intéressant, oui. Et en fait, voilà, c'est une vox, une voix qui fait écho à quelque chose. Donc
oui,
c'est intéressant de l'écouter, cette
voix.
Oui,
exactement. Ouais. Oui, exactement. Alors je vais, pour prendre le contre-pied, j'ai choisi une chanson d'Aretha Franklin qui demande le respect. Respect.
Just a little bit.
elle est chouette, Aretha Franklin. Hein.
Ah, ça.
Voilà, voilà. Donc, on a Jeanne, hein, qui a enregistré des sons là, avec son compagnon musicien.
Oui.
Est-ce que tu pourrais un peu nous rappeler où on en était, le contexte de ces rencontres?
Oui, bien sûr. Donc, Jeanne Grandjean et son compagnon Benoît Langlois sont... sont venus trouver la bibliothèque de Florentville et ensemble nous avons répondu à un appel à projet du fonds Annick Siméon soutenu par la fondation Roi Baudouin et l'idée ben justement c'est de donner la voix, donc on est vraiment dans le sujet, de faire entendre la voix des personnes plus isolées, que ce soit géographiquement ou numériquement. Donc on s'est rendu compte hein, pendant le confinement que des personnes étaient vraiment seules chez elles et doublement seules quand elles n'ont pas Internet et tous les moyens qu'on nous a enjoints à utiliser. Et donc, entre autres, ils sont allés rencontrer Édouard Izette, que certains connaissent bien dans Florentville, puisqu'il a été professeur d'histoire pendant de longues années. Nous l'avons déjà écouté nous parler de... Pierre Napoléon Bonaparte, c'est ça, et Abraham Gilson. Et puis aujourd'hui, il parle non pas de Monsieur Izette, mais de Jean Izette.
Le dernier personnage dont je vais vous parler, avant de vous quitter, eh bien, c'est un personnage qui fait partie de l'histoire plus récente, c'est le docteur Jean Izette. Eh bien, le docteur Jean Izette, bien qu'il soit homonyme de mon nom, puisque moi c'est Édouard Izette, mais écrit avec un Z, tandis que le docteur Jean Izette, le nom de famille s'écrit avec deux S, Jean Izette a passé son enfance à La Cuisine, sur ce mois, donc dans notre commune de Florentville. Il est devenu médecin et il s'est installé à Florentville, comme médecin généraliste dans les années 1930. Mais comme il avait une forte concurrence d'autres médecins présents, il part avec sa femme et ses enfants au Congo belge. Et là, dans une mission, eh bien, il sert de généraliste, comme médecin généraliste. Il soigne les malades, il met au monde des enfants congolais. Et il a toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'ophtalmologie. Quand il était jeune, déjà, il allait dans les fermes ici, l'entourage de Florentville, et demandait aux fermiers pour pouvoir extraire les yeux de porc, pour les étudier de près. Lorsqu'il est là-bas au Congo belge, en 1930, un missionnaire l'appelle et lui dit « Venez un peu voir dans mon village, près de la rivière du Sankourou. La moitié du village est aveugle. Venez un peu voir ce qui se passe. » Il se rend dans le village et il découvre que les Africains sont aveugles et parce qu'ils souffrent d'une simulie, donc un genre de moustique qui les a piqués et qui introduit dans leur corps des microfilaires. Ces microfilaires montent dans le corps de ces hommes et de ces femmes, s'attaquent à leurs yeux et les rendent aveugles. En fait, il fait la découverte de ce qu'on appelle la cécité de rivière. Quand il rentre en Belgique lors de ses congés annuels, il fait part de sa découverte dans des revues scientifiques. À ce moment-là, le gouvernement belge prend peur et envoie une mission qui s'appelle l'expédition Aarwart en 1934, expédition composée de 6 Américains avec un grand professeur ophtalmologue à leur tête, et ils viennent constater avec le docteur Izette au Congo belge que c'est bien une simulie qui rend aveugle une grande partie des Africains. En fait, il fait une découverte, c'est lui le premier, docteur Jean Izette, qui découvre cette maladie qui attaque les yeux des Africains. Aussi, actuellement, on peut soigner cette maladie. On prend ce qu'on appelle de l'ivermectin, un médicament. C'est une prise unique, une prise annuelle. Aussi, je vais vous parler d'un autre personnage. C'est un ophtalmologue allemand qui s'appelle Guido Klüxen, un ami à moi qui est devenu ami. Ce garçon s'est intéressé au docteur Jean Husset. Et bien avant que je le connaisse, il est venu à Florentville, sachant que le docteur Husset était originaire de la Cuisine-sur-Semois. Il a fait ses recherches. Et puis, il s'est passionné pour ce Belge qui avait découvert donc la cause de l'oncocercose oculaire. Et il s'est adressé à l'université de Harvard. Il a reçu des microfilms, des photos, des films qui avaient été faits par l'expédition américaine de 1934. Avec ces microfilms, il a composé un petit DVD de 15 minutes. Et il y a quelques années, à Bruxelles, le docteur Guido Klüxen, qui est originaire de Wermelskirchen, près de Düsseldorf, il a reçu un premier prix d'ophtalmologie grâce à son DVD. Puis il est venu à Florentville et il s'est intéressé. Moi, je l'ai rencontré et comme j'étais au cercle historique, je l'ai invité. Il a fait une conférence, un peu de mal car il a un peu de mal de parler le français, mais il a fait ça très bien au cercle historique. Ça a été passionnant. Et moi, j'ai organisé une exposition pendant une semaine. J'ai eu des classes primaires qui sont venues voir le DVD du docteur Klüxen. J'avais un écran de télévision et on passait régulièrement en journée, en boucle, le DVD du docteur Husset. À propos du docteur Husset. Aussi dernièrement, le docteur Klüxen, donc, je vous dis qu'il habite en Allemagne, est venu me rendre visite dernièrement, il y a peut-être 3 semaines, et il m'a apporté son dernier livre, qui en anglais sont les expéditions de recherche du docteur Jean Husset pour élucider la cécité de rivière qui est appelée scientifiquement l'oncocercose oculaire. Et il vient d'écrire un nouveau livre sur le docteur Husset, mais complètement en anglais, racontant toute la vie et les expéditions et les recherches du docteur Husset. Donc, nous devons reconnaître que le docteur Guido Klüxen a fait là un très beau travail et qu'il honore le patrimoine de Florentville par la personne du docteur Jean Husset.
Bien voilà, nous étions à la cuisine dans les temps passés. Alors, nous allons revenir plus proche d'ici, hein, avec Marie Fizen.
Oh ben, je ne suis pas d'accord, Coralie. Parce que moi, tu m'as oublié, et du coup, je suis très déçue. Je suis vraiment très triste. Et justement, comme je suis déçue et triste, et que j'ai décidé de te lancer une malédiction dessus, je vais vous parler d'un livre jeunesse
dessus,
d'horreur.
Dessus, c'est-à-dire, tu veux ça sur moi?
Oui, sur toi. Voilà, malédiction sur toi.
Heureusement que je n'y crois pas, hein.
Oui, effectivement, tu as vraiment beaucoup de chance. Donc le livre dont je veux vous parler s'appelle Elsie, c'est une trilogie, donc il y a trois livres, c'est pour la jeunesse. Le premier s'appelle Une dernière fois, et voici un résumé. Nouvelle dans son quartier, Elsie a 7 ans lorsqu'elle rencontre Francine, une vieille dame qui habite la maison d'en face. Au fil des années, elle noue une relation d'amitié et de grande complicité. Mais 10 ans plus tard, la mort les sépare subitement. Incapable de laisser partir Francine sans lui dire au revoir, Elsie achète un jeu de Ouija dans l'espoir de rétablir le contact. Mais la mort n'est pas un jeu. À vouloir attroupi communiquer avec son amie disparue, la jeune fille réveillera des êtres qu'elle regrettera vite d'avoir dérangés.
Oula.
La malédiction qui plane sur toi est...
Et toi, tu n'y crois pas, toi, Jean-Marie, bah, dis donc, méfie-toi quand même. Hein.
J'espère que tu as peur.
De soi, c'est bon.
Ah. Un cercle de sel, quand même.
J'allais dire un cercle de sel.
Les mauvais
et
esprits, c'est le sel.
Et des gousses d'ail.
Voilà, c'est le sel.
Mais le sel est blanc.
Les vampires, hein.
Le sel est blanc.
Oui, oui.
Oui, heureusement, d'ailleurs.
Non, c'est ça qui compte, c'est que je sois blanc. On peut mettre de la craie aussi, en réalité.
Donc voilà, donc c'est vraiment une petite trilogie de... Ils appellent ça une série fantastique, hein, mais c'est vraiment de l'horreur pure et dure pour les jeunes adolescents à partir de 12 ans. Voilà, à peu près 12 ans.
C'est un livre qui est sponsorisé par la Ligue des psychiatres, je suppose, et des psychologues, pour s'assurer que des jeunes gens perturbés vont devenir des adultes eux-mêmes perturbés.
Exactement.
Et voici se faire traiter par des...
De toute façon, à Radio Sud, on est tous fous et perturbés. Pourtant, ça nous réussit bien, hein, n'est-ce pas, Jean-Marie ?
Oui, tout à fait.
Donc voilà, non, vraiment, c'est un petit livre d'horreur qui est fort sympathique. Et qui est vraiment accessible à partir de tout ça, puisque moi j'ai une petite lectrice qui lit énormément, mais qui n'a que 9 ans et qui pourtant a été capable de suivre l'histoire sans le moindre problème, qui a beaucoup aimé d'ailleurs, donc c'est vraiment très facilement accessible. Et moi qui ai quand même plus de 9 ans.
Pas beaucoup,
mais quand même. J'ai quand même pas mal apprécié la trilogie. Donc voilà, l'écriture est assez simple hein, quand même, parce que voilà, c'est très accessible. C'est un premier roman de Catherine Francoeur, mais voilà, au-delà d'une écriture qui est accessible, c'est vraiment sympathique. Et alors...
Une horreur sympathique.
Oui, voilà.
Oui,
mais
après, c'est un oxymore.
Il faut apprécier l'horreur, hein, évidemment. Moi, je suis une grande fan d'horreur.
Mais puis les jeunes aiment se faire peur se faire peur d'avoir peur et avoir peur d'avoir peur. Donc,
oui, en
et
général.
Les deux autres tomes, on suit le même personnage, la même petite jeune fille.
Oui, c'est la même jeune fille et c'est vraiment une trilogie qu'il faut lire à la suite. Oui. Parce qu'à la fin du premier tome, on ne sait pas ce qu'il advient d'Elsie et des êtres qu'elle a réveillés. La réponse n'arrive qu'à la fin du tome 3.
Ah ben oui.
Et c'est quoi comme être qu'elle réveille ?
Eh bien, ce sont principalement des fantômes. Des fantômes très très dangereux. Alors, quand on connaît un petit peu l'horreur, évidemment, il y a plusieurs types de fantômes. Il y a l'apparition spectrale qui est là, qui apparaît, qui fait peur. Mais là, il y a le poltergeist qui s'amuse à déplacer les objets. Et puis, il y a les fantômes qui sont capables de prendre possession des humains, qui, eux, sont beaucoup plus dangereux.
Oula.
Puisqu'une fois qu'ils ont pris possession de vous, leur seul but est de profiter de leur vie dans votre corps.
Eh bien,
c'est très sympathique.
Quand tu dis que c'est sympathique, je vois que c'est... Oui.
C'est cool, hein.
D'accord.
Donc voilà, Elsie a réveillé toutes sortes d'êtres qu'elle n'aurait jamais dû réveiller. Et donc, ne jouez pas avec les planches Ouija, enfin.
C'est une allégorie du manipulateur, en fait. Le fantôme qui prend possession de votre corps et qui vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. C'est tout à fait une description du manipulateur, ça.
Ouais, quelle analyse, Jean-Marie.
C'est assez amusant, comme quoi, à partir d'un bouquin jeunesse qui parle d'un thème qui pourrait sembler un peu simpliste, on arrive à tirer des conclusions très psychologiques.
Et comme quoi, ça intéresse les petites jeunes filles de 9 ans, les toutes jeunes femmes et puis les vieux messieurs. Hein. Voilà.
Ça va bien, oui. Bon, si tu nous parles un peu de Marie Fizen, plutôt que de dire des bêtises.
Marie Fizen, alors vous vous rappelez, hein, elle est toujours en contact avec sa tante Juliette, sa cousine Marie. Et puis, figurez-vous que là, nous sommes déjà au Nouvel An, ce qui tombe bien parce que Coralie nous parlait du calendrier de l'Avent. Et la visite de Nouvel An incombait aux deux filleules, Ida et moi, donc moi, Marie Fizen. Notre père considérait d'une part que sa mère disparue, le folklore de Bonne Année n'était plus qu'une corvée qui incombait à sa sœur cadette. Tante Juliette jamais ne reculait devant l'obligation tout en la repoussant, espérant que son frère s'en fâcherait quelque peu. Elle prétextait volontiers que la mi-février se portait en échéance pour s'exécuter. Ce à quoi ma mère répondait « Mais toute l'année si tu veux ». Elle paraissait même préférer le gros de l'hiver, disant qu'en février, les jours s'allongeaient, signe invincible du printemps. Le verglas et la neige, qui ne plaisaient guère à son mari, la rendaient guillerette. Les honnêtes gens terminaient leur tournée traditionnelle, y compris la visite hivernale des paysans qui songeaient déjà à la saison prochaine. Les femmes repliaient leurs tricots qu'elles fourraient dans leurs cabas pour se rendre à Vaux-la-Ville. Ceci voulait dire que les cousins, cousines, les parents et les vieilles camarades se retrouvaient au moins une fois au culot du feu ouvert pour un après-midi, voire une journée entière. Tante Juliette rappelait enfin que le commerce ne pouvait se fermer qu'une fois en passant, un dimanche par exemple. Quant à Ida et moi, il n'était pas question de remettre cette espèce de mission qui m'apparaissait non dépourvue de gravité. Le 1er janvier. La cousine nous ouvrait la porte de la maison dans son transport de joie, des débordements d'embrassades et de vœux affectifs. À vrai dire, elle brisait pour quelques heures son isolement, la vie austère qui était la sienne. Tante Juliette se profilait aussitôt à son côté, le sourire marqué d'un plaisir contraint. Nous étions très attendus, c'était vrai, à l'entendre répondre à nos souhaits d'une voix sombre, mais le regard ardent que sûrement elle voulait chaleureux. Jamais je ne saurais ce qui me liait à cette tante et ce qui m'en séparait, ce qui chez elle plus qu'avec nul autre m'interpellait. Il faudra bien que je comprenne que mon propre passé familial qui était le sien, celui de mon père, en était responsable. La famille est à la fois un fardeau, un carcan et une île à la floraison extraordinaire, unique. Mais déjà nous présentions nos petits cadeaux, pralines, chocolat, cœur en pain d'épices et les cigarillos pour l'oncle Lucien. Dans la salle à manger, le poêle Gaudin dispensait de son foyer continu une égale et rayonnante chaleur. Un grand et lourd paillasson recevait nos semelles et je frottais par-dessus mes bottines sur toutes les coutures. Je ne savais si j'aimais cette pièce ou si je ne l'aimais pas. J'y pénétrais, la respiration un peu ralentie, une curiosité cachée sûrement guindée pour ne rien montrer. Les meubles étaient à eux seuls d'une présence imposante et collés au plafond comme au sol. Il régnait là une atmosphère forte de plusieurs générations. Il est quand même étrange de se sentir happé par des esprits inconnus, ou plutôt par des courants indéfinissables qui soudain vous envahissent de leur émanation identique. Les gestes en héritage par répétition. Tante Juliette en était la réceptrice actuelle. Elle ne faisait pas ce qu'elle ne devait pas faire, mais ce que fit sa mère et avant elle la mère de sa mère et l'autre, la précédente. Ici régnaient les yeux de l'éternité. La sensation était brève, enveloppante, et de m'asseoir sur la chaise cannée au dossier qui labourait toujours ma colonne vertébrale, j'éprouvais malgré tout un certain bien-être. Après l'air froid du dehors, mon corps s'amollissait sous une douce chaleur. Le sapin de Noël miroitait de ses feux, et je restais ravie autant que le ravi de Provence par la féerie d'oiseaux en verre coloré qui posait sur les branches. Les bougies accrochées, les petites fusées en bâtonnets se rangeaient en attente du moment ultime. La crèche dressée à côté démontrait son caractère primordial par sa dimension et ses nombreux personnages. L'étoile et les anges planaient dans ce ciel céleste. Je savais pourtant que la crèche de papa était 100 fois plus belle puisqu'il l'a créée de toutes pièces. Le lustre vibrait de ses 4 ampoules reflétées sur la vitre qui renvoyait un ciel bas, empêtré de nuages. Ouf! La neige aveuglera le tram ce soir. Sur les murs, nos ombres épousaient le tapis mordoré. Soigneusement, notre cousine Marie avait sorti sa panoplie de jeux de société, société qui pour elle se faisait trop souvent désirer. Le favori était les petites annonces, les cartes tirées au hasard et lues par chaque joueur, donnant des tournures loufoques ou stupides. On s'amusait follement, notre cousine surtout, le mouchoir dans une main pour éponger ses larmes et sa gaieté. De son fauteuil, aspirant le cigare, son père envoyait des commentaires, une façon de participer. Lorsque tante Juliette émergea de sa profonde bergère, l'heure du goûter allait bientôt sonner. Silencieuse, elle disparut dans sa cuisine, prépara le café et sa corbeille de galettes au fer, une recette de famille transmise sans fausse note depuis des siècles. Nous savions tous que la Juliette passait la nuit à les pétrir et à les cuire. Il ne pouvait en être autrement. Je crois même qu'elle attendait d'être seule pour accomplir ce rite. Aucune autre pâtisserie ne pouvait remplacer la galette de Nouvel An. Le tout préparé, elle s'encadrait dans l'embrasure de la porte, attendait la fin du jeu et demandait le coup de main de sa fille pour mettre la table. Le service à café se trouvait prêt sur la desserte avec les petits verres. Félicitations, ma tante. Elles sont très bonnes comme d'habitude à chaque 1er janvier revenu. Après quoi, nous devions y aller de nos compliments et de nos chansonnettes, toujours avec ce je ne sais quoi qui m'empêchait d'être tout à fait moi-même. Je commençais. Bon, alors là, je ne vais pas chanter. Voici Noël qui se passait il y a une semaine. Cloche carillonnée gaiement, Jésus est né, la Vierge penche sur lui son visage charmant. Ida y alla d'une tirade plus élaborée, la conscience de Victor Hugo. Mon Dieu, comme c'est beau, mes enfants, murmura notre tante, les mains jointes. Sa fille applaudit, l'œil humide une fois de plus, mais autrement. En maître chanteur qu'il était, l'oncle Lucien réclama les chansons. Que disent petits et grands les enfants à leurs parents, faisant visite honnête, turluterette, d'un air bête, je vous la souhaite. Invitée par sa mère, sa fille se leva à son tour. Prenez quelque chose de simple, dit son père, vous ne savez pas monter. Il fallait savoir que c'était sa voix qui ne montait pas. Alors elle entonna le rouet. et là c'est moi qui ne sais pas monter, je me contenterai de lire. Suis allée hier au moulin voir mamie Annette, comme elle filait le lin de sa quenouillette. Moi je tournais le rouet roux et roux d'ondaine, en pensant à mon secret roux et roux d'ondée. Mais l'oncle prenait le fil en passant et la chanson se terminait à deux. La chanson de Botrel, par le petit doigt, tenait une place inévitable, ainsi que le tricot de laine. Tante Juliette ne chantait pas. Avec une certaine méditation, elle remplissait les verres d'une anisette ou d'une liqueur framboisée et d'un alcool sec pour Lucien. Nos cadeaux, nous les recevions à la sortie. Je me souviens de cette fois où je repartis avec le plus beau sac d'écolière dont je rêvais depuis longtemps. « Tu en auras pour toutes tes années d'école, » dit l'oncle, la voix presque autoritaire. C'était un cartable en cuir très épais, comme les garçons en portaient sur le dos. Le rabat arrondi fermé par trois lanières passait dans une boucle. Mais la face, c'était surtout de la face dont j'étais fière. Y apparaissaient en relief les portraits des jeunes princes, Joséphine, Charlotte et Baudouin. Ma marraine me démontrait tous les détails, tandis que sa mère élevait le ton. « Tu peux être certaine que tu seras la seule à en avoir un comme celui-là. » À l'intérieur se cachait un magnifique plumier en bois verni décoré à trois étages. Plumes, touches et gommes s'y trouvaient rangées, ensuite crayons à colorier, et en troisième lieu un boulier compteur aux perles jaunes et rouges. Mon beau sac fit avec moi le tour de France lors de l'évacuation en 1940, et je terminais ma dernière année d'école lorsqu'un jour ma mère le regarda de plus près. Avec un cuir pareil, le cordonnier pourrait sûrement te fabriquer des bonnes chaussures. Quelle horreur ! J'en avais tellement pris soin qu'il était à peine terni par le temps. Mais que ne fallait-il pas faire durant la guerre ? J'ai pleuré. Un mois plus tard, je portais de magnifiques chaussures noires à lampaigne en chevreau avec languettes et boucles. À l'intérieur, bien que lissées, je contemplais quelques bris d'un prince ou d'une princesse. Autant on avait envié mon cartable, autant on envia mes souliers. Le cordonnier fit si bien les choses qu'il trouva moyen d'en tirer une seconde paire pour maman. Je partais en classe avec une mallette qui s'était trouvée à la retraite sur le grenier et mon regretté sac d'école sous mes pieds. Et comme elle parle de 1940 et de l'évacuation, la voilà sur les chemins de France. Et la sœur de mon père aimait les valises d'une manière démesurée. « Juliette et ses paquets », disait-il. Elle paraissait toujours vouloir en sentir une sous la main comme si le voyage était inévitable, boursouflée dans ses profonds souhaits. Sans doute aurait-elle aimé en faire beaucoup, des grands et des petits. Hélas, ce plaisir lui restait compté malgré ses vifs désirs. Elle savait pourtant s'emménager un ou deux par an vers la capitale. Une façon aussi de se pointer chez un cousin ou une cousine, car elle aimait cousiner. Une première échappée se faisait alors en temps voulu pour la commande de sa boutique en vue de la Saint-Nicolas. Son grand souci était de se rendre chez ses fournisseurs et le meilleur moyen de locomotion de l'époque était le train. Ce qui voulait dire pour Juliette qu'elle devait partir dans la nuit noire du petit matin, accompagnée de son mari poussant son vélo, car se rendre à la gare demandait déjà trois quarts d'heure de marche. Parfois, elle avait trouvé la veille ou l'avant-veille une charrette ou la voiture postale, par exemple. Durant ce transfert, tante Juliette se blottissait au plus loin du conducteur tout en le gardant dans un axe parfait, car on ne savait jamais. Ensuite, le train la remplissait d'aise, tout en ayant vérifié si la compagnie lui paraissait convenable. Enfin, elle se trouvait bien installée dans son coin, sa petite valise serrée à deux mains sur un côté, dans laquelle elle avait placé ses tartines et son thermos de café. Elle fixait le paysage qui défilait au petit bonheur de la locomotive à vapeur. Au retour, elle pourrait raconter sa journée dans tous les détails, y compris les bonnes ou les mauvaises rencontres. Il y en aurait pour trois jours au moins. La firme serait louangée sur son accueil, les nouveautés passées en revue sans exception. La commerçante Juliette était connue pour sa méticulosité, mais avant tout par sa connaissance du secteur. Son choix s'avérait judicieux. L'enfant étant avant tout un écolier, elle alliait le pratique, l'éducatif à la distraction et la qualité. Car il s'agissait bien et bien de qualité pour le jouet. Il traverserait même les générations. Le poing fermement fixé à sa valise, elle parcourait la fabrique sans perdre un mot du présentateur, prenant des notes quand elle jugeait utile. À la moindre erreur dans la suite, elle saurait revenir sur le sujet. Après tout, elle se plaisait tant dans ce milieu qu'elle rentrerait en pleine nuit par le dernier train. Tante Juliette se voyait alors dans le meilleur des mondes qui continuaient à rouler dans ses visions juste assez, se rappeler aussitôt qu'il n'était que piège. mieux valait s'abstenir de les fréquenter. Une de ces fameuses valises subsistera dans la mémoire familiale. Le 10 mai 1940, la guerre éclatait et se montra de suite dans toute son horreur. Il n'y a pas de bonne guerre. Le jour même, les Belges, pour la plupart chargés de bagages hétéroclites, dans le désarroi des choses bien inutiles, furent emportés, franchirent la frontière française et s'enfoncèrent au plus loin à travers les chemins de campagne. Le 11 mai déjà, notre famille cahotait sur la charrette de voisins et amis, les Dupont-Gauffinet. Nous partions comme tout le monde pour cette terrible aventure. L'oubli deviendra impossible. Où allions-nous? Jusqu'où irions-nous? Nul n'aurait su le dire. La pire des craintes était celle de trouver brusquement la mort ou encore la séparation qui nous guettait à tous dans les carrefours, dans l'affolement des bombardements, des tirs de mitrailleuses ou anti-aériens. Combien de familles mortes d'inquiétude restaient sur place à la recherche d'un des leurs? Au moment même, les retrouvailles étaient rares. Chaque jour, chaque nuit apportait l'inconnu, leur lot de surprises en épreuve et en souffrance. La paille, le foin d'une grange, nous accueillait pour dormir et Dieu sait si nous, les gosses, nous dormions, abrutis de fatigue et de peur, parfois de faim quand le ravitaillement avait quasi été introuvable. De plus, le soleil persistait à nous brûler la peau. Il se donnait tant d'ardeur que des odeurs de pourriture emplissaient parfois nos poumons jusqu'à nous soulever le cœur. Les pères de famille, plus très jeunes, trop vieux pour aller se battre sur le front, combattaient la journée entière à la rencontre d'une boulangerie ou d'un bureau de tabac, qui tenait l'épicerie et c'était toujours à recommencer. Combien de vélos ne voyait-on pas avec leurs belles roues de pain accrochées au guidon, bien qu'on cherchât à les cacher, car tous les réfugiés n'y trouvaient pas leur compte. Les boulangeries françaises se videraient longtemps avant l'heure de fermeture et l'on pense avec le recul que les Français furent souvent très généreux. Et nous allons justement en France, puisqu'on parlait au nouvel an de la chanson de Botrel par le petit doigt. Et figurez-vous que Théodore Botrel a chanté cette chanson il y a presque 100 ans. C'était en 1922. Incroyable, hein ?
On va écouter ça. Hein ?
Mais oui.
Quand tu revenais de classe tout le long du grand chemin, dès que je te voyais hélas, vers toi je tendais la main. Et je te ramenais chez toi en te tenant bien gentiment. Par le petit doigt long la long l'air, par le petit doigt long la, par le petit doigt long la. 20 ans passent vite, quoi qu'on dise, tant et si bien qu'un beau jour, nous sortîmes de l'église, tous les deux unis d'amour, le cœur rempli d'un doux émoi, en nous tenant bien fièrement. Par le petit doigt, long la, long l'air, par le petit doigt, long la, par le petit doigt, long la. Et nous voici père et mère d'une jolie petite Léna, qui se traîne encore à terre, quoiqu'elle ait un nom déjà. Elle ne marche sans trop d'effroi quand nous tenons bien fortement. Par le petit doigt long la long l'air, par le petit doigt long la, par le petit doigt long la. Il serait doux, il me semble, quand nous serons vieux, très vieux, de fermer tous deux ensemble pour toujours nos pauvres yeux, dans notre vieux lit clos étroit, en nous tenant bien doucement. Par le petit doigt, long, la, long, l'air, par le petit doigt, long, la, par le petit doigt, long, la. Et nous dirons à Saint-Pierre, ouvre-nous vite les cieux, mais il faut prendre la paire ou nous refuser tous deux, car nous voulons entrer chez toi en nous tenant bien gentiment. par le petit doigt, monsieur Saint-Pierre, par le petit doigt, là, par le petit doigt, là.
Eh bien, quelle affaire, hein?
Mais oui, par le petit doigt, long, l'allons l'air.
Oui, et puis monsieur Saint-Pierre, enfin bon, quand
oui,
même.
Oui, oui, oui. Et donc, c'était le genre de chanson qu'on chantait autour de la table familiale après un bon repas. Oui. Parfois même au restaurant, quand on allait au restaurant. Il y avait toujours hein, la chanson de l'oncle, la chanson de la petite cousine.
C'était, oui. Voilà. Oui, moi, je me souviens, dans les fêtes de famille, c'était mon père qui avait une guitare imaginaire et qui chantait du Brassens. Et là, on savait que c'était le moment de mon papa. Dans les fêtes de famille,
ouais,
quand
oui,
c'était,
voilà.
C'était vraiment chouette.
Dans la famille, c'était des chansons paillardes.
Tu m'étonnes.
Le curé de Camaret, par exemple.
Oui.
Maya adorait le curé de Camaret. Enfin, je ne vais pas vous parler de ça, parce que radio, comme généraliste, on ne peut pas se permettre de parler du contenu de ces chansons-là. Mais elles étaient généralement très entraînantes. Et moi, je me souviens que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais petit. Et Maya aussi beaucoup aimé jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Je suppose qu'elle aura dû essayer une fois de chanter ça et qu'on lui
a dit, voilà.
Ce n'est pas vraiment le genre de chanson qu'on chante ici. Et à propos d'école, j'ai beaucoup aimé le passage sur le cartable.
Ah oui, savoureux et très imagé.
Oui, on le voit ce cartable, on voit le plumier à 3 étages. J'en ai jamais eu à 3 étages.
Mais non. Je suis entré en primaire, j'ai reçu un cartable avec le dos arrondi, oui. Le dire, avec 3 sangles. Oui. Mais le mien, il n'y avait pas le prince Baudouin, parce qu'il était déjà roi à l'époque.
Oui,
mais c'était l'école qui donnait ces cartables-là, et qui se portait effectivement sur le dos avec deux lanières, et le dessus était arrondi.
Mais c'était tout mignon.
Donc je suppose que c'était un modèle qui a bien convenu, qui était robuste.
Qui faisait toute une scolarité.
Ah oui, oui, oui.
Ah oui, hein, ben voilà, ils avaient compris. Ils n'étaient pas du tout dans une société où chaque année, on doit racheter le nouveau cartable qui est à la mode. Qui est... Donc voilà, effectivement.
Et là,
je me souviens, j'ai gardé mon cartable toutes les primaires.
Et la boucle de notre émission est bouclée,
absolument.
J'ai envie de dire.
Revenons à Joe Down.
Hein, voilà.
Il y a une cohérence qui est vraiment impressionnante.
Oui, oui, franchement.
Je suppose que vous aussi, auditeurs et auditrices bien-aimés de Radio Sud, vous en restez bouche bée.
En tout cas, ils ne répondent pas, donc je pense effectivement qu'ils sont tous bouche bée.
C'est le qu'on sent, donc... je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'émission, là. Hein.
Oui.
Alors, on va vous dire au revoir et nous reviendrons sous la quinzaine.
Tout à fait. Alors, à bientôt.
À bientôt à tout le monde.
À la prochaine.
Au revoir.